I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today.
When it comes to your finances, you think you've done it all. You've saved, you've researched, and you've invested all that you can. Now it's time to take those investments to the next level by using the brand behind every great investor, Yahoo Finance. As America's number one finance destination, Yahoo Finance has everything you need, whether you're a seasoned trader or just dipping your toes into the market. Join the millions of investors who trust Yahoo Finance to guide them on their financial journey. For comprehensive financial news and analysis, visit yahoofinance.com, the number one financial destination, yahoofinance.com.
Bonjour, c'est Jules Lavie pour Code Source, le podcast d'actualité du Parisien. Aujourd'hui, Jérémy Ferrari, invité, deuxième partie. Aux côtés de Florence Foresti ou Jean-Marie Bigard, il va bientôt faire partie du cercle très fermé des humoristes ayant rempli Bercy, l'Accor Arena. Connu pour son humour noir et décapant, son spectacle Anesthésie Générale qu'il va jouer pour la dernière fois les 9 et 10 mars, fustige la mise à mal du système de santé français pour des raisons de rentabilité. Jérémy Ferrari est l'invité de Code Source, interview menée avec Grégory Plouvier, spécialiste humour au sein du service culture du Parisien. Un podcast en deux épisodes, le second aujourd'hui. Jérémy Ferrari nous raconte sa toute première participation à l'émission de Laurent Ruquier « On ne demande qu'à en rire », sa carrière qui décolle, mais aussi son addiction à l'alcool, sa tentative de suicide et les diagnostics de ses troubles psychiques qui l'ont aidé à mieux se connaître. Jérémy Ferrari, vous allez donc remplir Bercy, l'Accor Arena, deux soirs de suite au mois de mars. Spectacle projeté en direct dans 300 salles de cinéma en France le dimanche 10 mars. Alors avant de connaître ce succès, vous avez connu des périodes difficiles financièrement, vous nous le disiez dans la première partie de ce podcast. Une situation, vous le rappelez, que connaissent de très nombreux Français.
Vous savez, et ça je parle aux gens qui nous écoutent, c'est horrible de ne pas savoir comment on va payer son loyer, c'est horrible de devoir tout compter, c'est horrible d'aller dans un bar et de dire je vais pas prendre tel plat parce que là c'est vraiment chaud financièrement, d'avoir des appels de la banque, de ne pas savoir quand vous allez au distributeur s'ils vont vous donner 20 euros ou pas 20 euros. Moi je me revois appeler ma conseillère à 18h30 en disant s'il vous plaît laissez-moi 20 euros quoi. Et en fait, elle disait, mais moi, je suis mère de famille, je peux pas refuser à un gamin de 19 ans de tirer 20 euros pour aller acheter à manger, quoi. Donc, si vous voulez, il y a eu cette période et puis cette injustice, mes parents qui perdent tout alors qu'ils avaient donné toute leur vie dans ce magasin. Ils venaient d'acheter une maison, on leur retire leur maison. On met des scellés sur les portes, on n'a droit à rien. 400 balles par mois à deux, pas d'aide, à la rue, quoi. Enfin, je veux dire, c'est comme s'ils avaient fait quelque chose de mal, alors que c'est juste des commerçants, quoi, qui ont travaillé 7 jours sur 7 pendant 20 ans ou 30 ans. Donc, si vous voulez, avant que ça marche, moi je suis vraiment dans la merde, mes parents sont vraiment dans la merde, tout le monde est vraiment dans la merde.
Jérémy Ferrari.
Alors comme promis, on en vient à cette première participation à l'émission de Laurent Ruquier, On ne demande qu'à en rire en 2010. Je rappelle que vous avez 25 ans, vous êtes sur le point d'abandonner l'idée de devenir comédien. On ne demande qu'à en rire sur France 2, c'est une sorte de télécrochet d'humour où les moins drôles se font sortir par le jury en appuyant sur un buzzer. Racontez-nous comment ça se passe pour vous. Le thème qu'on vous a donné pour votre sketch, c'est « Privé de crémation pour cause d'obésité ».
J'ai des chaussures trouées, ça je m'en rappelle très bien. J'ai des chaussures parce que je me dis il faut que je me fasse un peu beau, je passe à la télé. Donc j'avais mis un jean parce que bon, j'avais rien d'autre, un t-shirt noir. En fait, comme je suis habillé comme aujourd'hui. En fait, je suis vraiment habillé exactement comme aujourd'hui. Et puis donc j'avais des chaussures de vide, mais pourrave. Donc je me rappelle qu'elles avaient un trou mes chaussures de vide. Je me rappelle parce que je me disais putain, j'espère que quand je vais monter les escaliers ça va pas se voir. Donc je me rappelle très bien de ça. Et puis j'avais un de mes meilleurs amis qui me prête une veste de costume. Je dis bon allez on y va. Je descends les marches et je commence le sketch et au début il se passe ce que j'avais prévu, personne ne rit.
Mais je ne suis pas contre vous, écoutez, vous voyez bien, je dis regardez, moi depuis ce matin je suis aussi gêné que vous, je ne sais pas où me mettre. Et le problème c'est que votre mère non plus, on ne sait pas où la mettre. Hein. Et parce que dans les frigos non plus, elle ne passe pas votre mère. Alors en attendant, on l'a stocké hein, dans la chambre froide de la boucherie de M. Martineau.
Pendant la première minute trente, personne ne rit, sauf Laurent, qui rit beaucoup.
Bah oui, enfin, je suis désolé, mais renseignez-vous, mais je pense pas que les musulmans considèrent que votre mère soit anale, madame. Hein.
je suis pas le seul qui fait de l'humour noir, mais j'arrive avec un ton et une façon de le faire qu'on n'a jamais vu. Donc il y a vraiment un moment de un peu de sidération des gens.
Non, mais j'ai conscience hein, que la solution est un peu atypique, mais écoutez bien. On fait une cuisse le jeudi, hein, voilà. Non, mais pour les gens, voilà, un petit peu moins proches de la famille, etc. Hein.
Et grâce à Laurent, cette accélération va se lever. Parce que lui, comme il est mort de rire, eh ben, ça lance un peu.
Ça autorise.
Et puis, à un moment donné, il y a un public quand même. Donc, il y en a un qui rit. Parce que quand même, en fait, je les chope au fur et à mesure. Et 2, 3, 4, 8, 10, 50, 40, 60. Et comme le sketch ne fait que monter en puissance, ça, j'avais déjà bien la notion de la dramaturgie. Donc, je savais qu'il fallait que je mette les trucs les plus soft au début et que je monte. Et donc, c'est de pire en pire. Donc, si vous voulez, ils finissent par rire.
À mon avis, en plus, si vous laissez une cuisse à Monsieur Martineau, il vous fera la découpe gratuitement.
Et donc, on finit le sketch où tout le monde rigole, parce que c'est abominable ce que je raconte.
Écoutez, je sais pas comment il faut faire, mais il faut faire quelque chose. Parce qu'en plus, la presse est en train de s'en mêler. On nous a rebaptisé le cimetière des éléphants. Oui, ben ça vous fait rire, peut-être, mais pas moi, Madame Cohen. Hein. Écoutez, on a même consacré une après-midi à appeler nos fournisseurs allemands. Je veux dire qu'ils sont quand même des spécialistes hein, sur les gros volumes.
Oh non.
Et vous dites quoi au fur et à mesure quand vous entendez les rires qui montent?
Bah, je suis content parce que franchement, je m'y attendais pas. Donc, je commence à prendre un peu confiance. Et du coup, bah, je commence à être un peu meilleur aussi dans mon interprétation. Parce que l'interprétation, c'est 50% du sketch. Hein, donc, déjà, je suis allé au bout. Donc déjà, c'était incroyable.
C'était un risque de pas aller au bout?
Ah non, mais j'étais convaincu absolument à 100% que j'allais me faire buzzer. En fait, quand le sketch est trop mauvais, vous êtes buzzé, vous êtes dégagé. J'étais convaincu que j'allais être buzzé, mais convaincu. Donc déjà, je me retrouve sur le siège en haut à attendre les notes. Déjà, j'étais pas préparé, quoi. 17 de Laurent Ruquier. Alors là, parce que moi, Laurent Ruquier, en plus, je l'admire, parce que ma mère est fan. Ma mère, même moi, je me disais toujours, putain, s'il y en a un qui peut m'aider, c'est lui, quoi. Je sentais dans son intelligence que j'allais bien m'entendre avec lui. Et il va faire un truc incroyable pour moi, c'est qu'il va pas seulement... il va expliquer aux gens ce que je fais. Il va leur dire, est-ce que vous comprenez qu'il dénonce ça? Il va éduquer les gens à mon humour. Donc c'est incroyable. Donc comme il est malin, en gros il dit, bah, si ça vous fait rire, tant mieux. Si ça vous fait pas rire, comprenez ce qu'il est en train de faire. Ce qui fait qu'il y a soit des gens que je fais rire, soit des gens juste que je fais pas rire, mais qui comprennent que c'est quand même bien de faire ce que je fais.
À vous, Ferrari. Voici Jérémy Ferrari, qu'on note. Le voici, Jérémy Ferrari. Papier, stylo, vous le notez et vous comparerez votre note avec les nôtres tout de suite après son sketch. Le voici, Jérémy Ferrari.
Et vous devenez petit à petit l'un des piliers de l'émission avec des gens comme Arnaud de Samer. À ce moment-là, vous vous dites quoi? Ça y est, j'y suis arrivé?
Non, pas du tout. À ce moment-là, je me dis, je sais pas combien de temps ce coup de chance va durer, mais mais il faut absolument que je mette de l'argent de côté. Donc, je pense honnêtement, je suis convaincu à ce moment-là que ça va pas continuer, que c'est un coup de bol. Quand même que je le mérite et tout, hein, j'ai quand même confiance en moi et je me dis que je travaille comme un chien tous les sketchs et tout ça. Et donc je me dis, bon, bah, ça va peut-être faire décoller un peu le truc quoi dans mes salles. Donc, je me dis que potentiellement, je suis peut-être en train de vivre le début de ma carrière quand même. Mais je suis pas très sûr de moi encore. Hein. Ça va mettre un petit moment. Hein.
Votre premier spectacle, Alléluia Bordel, arrive dans la foulée. Vous y parlez d'un des thèmes les plus difficiles pour un humoriste, la religion. Pourquoi ce choix?
C'était pas un choix. En fait, je voulais étudier un peu la philosophie. Donc j'ai commencé par Socrate, Platon, Aristote. Et en fait, il faisait beaucoup référence à la Bible dans ses écrits. Donc je me suis dit, bah, en fait, c'est encore pas le début. En fait, comme j'avais pas de méthodologie, je me suis dit, bah, je vais commencer tout ce qu'il y a à lire dans le monde, je vais commencer par le début et je vais remonter petit à petit. Bon, ce qui est complètement illusoire, mais bon, à l'époque, comme j'avais rien lu, je le savais pas. J'avais pas la culture pour le savoir. Et peut-être faut que je lise la Bible. Alors donc, j'ai lu la Bible. Et puis, il y a plein de choses qui m'ont beaucoup fait rire. Et je me suis dit, mais c'est pas possible, personne l'a lu, en fait. Puis après, j'ai dit, bah, je vais lire la Torah. Alors là, j'ai eu une bonne nouvelle, c'est qu'on m'a dit, bah, tu viens de la lire, en fait, parce que t'as lu l'Ancien Testament et le Nouveau. Donc, dans l'Ancien Testament, les premiers chapitres de l'Ancien Testament, c'est la Torah. Ah, j'ai dit, oh, bah, ça, c'est une bonne nouvelle. Donc, il me manque plus que le Coran. Donc, j'ai lu le Coran. Et puis, j'ai noté tout ce qui me faisait rire. Tout ce que j'estimais être un peu absurde ou être un peu ou rigolo ou, voilà, tout ce qui me faisait marrer, en fait. Et puis, je me suis dit, bah, je vais faire un spectacle dessus. Donc, après, je suis allé voir des rabbins, des pasteurs, des imams, des prêtres, discuter avec eux. Je voulais pas dire d'ânerie. Après mon interprétation et les vannes, mais je soumettais pas à leur avis, parce que sinon j'écrivais pas de spectacle. Mais en tout cas, être sûr que je disais pas de bêtises, ça c'était très important. Et puis voilà, mais au début, le spectacle, les Lula Bordel, il marche pas. Hein. C'est quand je commence à passer à la télé qu'il marche. Hein. Au début, je le joue, il marche pas trop.
C'est l'effet vu à la télévision qui a.
Non, c'est parce qu'en fait, j'avais pas de crédibilité. C'est-à-dire qu'un mec de 20 ans, 21 ans, j'ai la Bible dans la main, les gens comprenaient pas trop, en fait. Est-ce que c'est vrai ce qu'il dit? Qui est ce mec? Le fait que je passe à la télé et que j'avais habitué les gens à traiter des sujets d'actualité, ça a commencé à donner une véracité dans mon propos.
Une légitimité.
Une légitimité. Et donc, du coup, ils ont commencé déjà un peu plus à rire. Mais le vrai déclic d'Alléluia Bordel, ce qui va faire le succès d'Alléluia Bordel, c'est quand je commence un jour. Parce qu'en fait, c'est un jour sur deux. Un jour, ça rit, un jour, ça rit pas. Et en fait, je me dis, putain, en fait, il y a encore des gens qui pensent que je raconte des conneries. Donc, il faut que je descende dans la salle et que je leur fasse lire les extraits, qu'ils comprennent, en fait. Et c'est ce que j'ai commencé à faire. Et là, ça a été le déclic pour de succès d'Alléluia Bordel.
Je vais m'approcher. Ah non, non, par contre, n'essaie pas d'être drôle ni rien. Non, vraiment, souvent, les gens après ont honte d'eux. C'est ta femme à côté?
Oui.
Elle le sait, regarde, elle a déjà honte pour toi. Il fait ça en soirée, madame, il essaie d'être rigolo et après, les gens font. Ah ouais. Allez, attends, je vais m'approcher de toi pendant l'espoir d'avoir une relation sexuelle et pour que tout le monde t'entende bien.
L'homme aux testicules écrasés.
Je vous remercie. C'est un petit peu lent la lecture, hein? Hein? Aïe, aïe, aïe. La consanguinité fait des dégâts dans la région, hein?
À ce moment-là, il y a des milliers de personnes qui découvrent votre humour très noir. Vous arrivez à dire des horreurs sur scène, mais ça passe toujours. Comment vous faites pour que les gens acceptent ça?
C'est beaucoup, déjà beaucoup de travail. Alors le travail, ça comprend plein de choses. Déjà, ne jamais faire gratuit, ne jamais attaquer gratuitement, c'est très important. Il faut qu'il y ait un petit sujet derrière, quoi. C'est toujours mieux. C'est bien qu'il y ait eu un événement, quelque chose qui fait que vous avez décidé de traiter ce sujet. Que vous êtes en réaction et non pas en attaque, en fait. Déjà, ça change la donne depuis le départ. Si vous décidez, par exemple, de traiter, j'en sais rien, moi, du racisme, ben, c'est bien de vous appuyer sur un acte. Surtout si vous devez jouer un raciste. C'est-à-dire que moi, je fais de la caricature. Donc, je vais jouer un raciste. Donc, c'est bien si je me réfère à un fait d'actualité parce qu'on comprend que c'est une forme de dénonciation. Donc, déjà, pas gratuit. Énormément travailler son sujet pour être extrêmement drôle. C'est-à-dire ne jamais louper sa cible. Parce que, en gros, moi, je vous vois comme des cibles. Je dois vous faire rire. Donc, il faut pas que je loupe. Si vous avez ri, je vous ai dans ma poche. Donc, c'est si vous ne riez pas que vous pouvez m'en vouloir. Mais il faut que je vous fasse rire. Donc, ça marche pas à tous les coups, mais il faut voir au maximum. Et puis après, honnêtement, je pense que c'est vraiment ce que vous dégagez dans votre voix, dans vos yeux. Et je pense que les gens, je pense que ça se ressent vraiment très fort qui je suis. Et j'insulte les gens, je leur dis des choses mais abominables. Mais vous savez, des fois je vais descendre dans le public et les gens ils me disent t'as pas l'air en forme. Des fois je fais des conneries, la personne me dit j'ai un cancer, je vous jure, je vanne la personne. Et en fait tout le monde rit, mais même la personne. En fait, il n'y a pas de limite. J'ai eu des fois des gens dans des salles, je pense que 99% de mes collègues humoristes se seraient juste excusés. Mais moi, je fais toujours une vanne, j'aurais toujours. En fait, il y a quelque chose où on sent qu'il n'y a pas la moindre once de méchanceté dans ce que je dis. Malgré que je dise des horreurs, en fait.
Et d'ailleurs, il n'y a jamais eu de polémique, Jérémy Ferrari, et malgré non. Tous les thèmes ultra sensibles que vous traitez.
Contrairement à ce qu'on pense. Parce que tout le monde est convaincu qu'il y a eu plein de polémiques. Mais en fait, il n'y a jamais eu de polémique. Il y a eu des sketchs qui ont moins plus que d'autres, oui. Mais un vrai truc. Un tollé, pas eu. Alors après, ça veut pas dire qu'il n'y en aura jamais. Hein. Je peux toujours écrire un mauvais sketch, hein. Je veux dire, ça arrive. Mais pour l'instant, il n'y a pas eu. Et même si ça arrive, j'espère qu'on me pardonnera, parce que ça fait quand même 15 ans que je le fais. Donc après, on n'est pas infaillible. Hein. Je peux toujours faire un sketch qui plaira moins qu'un autre. Je peux me tromper. Mais pour l'instant, ça va.
Vous jouez Alléluia Bordel jusqu'à 2014. Il y a donc la télé à côté, donc Laurent Ruquier sur France 2. C'est le début du succès. Vous allez monter plusieurs entreprises, des sociétés de production. Comment est-ce que vous vivez ce changement de vie, ce changement de statut social quelque part?
En fait, je ne le vis pas vraiment. C'est un peu étrange, mais je le vis à la fois bien et pas bien. C'est-à-dire que, en fait, ce qui est très étonnant, c'est que je me suis plus réjoui des petites sommes que j'ai gagnées au début que des grosses sommes que j'ai pu gagner après. Parce que tout d'un coup, je gagnais, je sais pas, je touchais une SACEM, je gagnais 15 000 euros de SACEM. Et au moment où je les touche, je me dis, mais ça résout tous les problèmes de ma life. C'est-à-dire que tout d'un coup, j'ai plus d'agio, je peux refaire des courses normalement, je peux sortir boire des verres avec mes copains, je peux inviter ma copine au restaurant, je peux donner un peu d'argent à la famille. Voilà, la deuxième étape, ça a été encore un peu plus d'argent. Là, j'ai pu acheter une maison à mes parents. Mais même moi, j'ai pris un appartement dans le 17e mieux que celui que j'avais avant. Le premier pas, il est tard. Il est tard. Et déjà, à cette époque-là, je dis, déjà, j'ai mis un loyer à 2000 euros par mois. Ça me semblait, mais colossal. en vrai, l'argent que je gagne au départ, je sais pas vraiment quoi en faire. Vous voyez, moi, à partir du moment où j'ai un bel appart, je peux aller en vacances. J'ai acheté une maison à mes parents. Enfin, qu'est-ce que quoi? J'en fais quoi de l'argent? J'ai pas les vêtements de luxe. Je vois pas l'intérêt. Donc, c'est là où on commence à avoir envie de monter société. On se dit, mais en fait, cet argent, on peut l'investir dans des artistes, etc. Et là, comme je dis toujours, je me lève encore dans ma maison le matin en me disant, c'est incroyable cette maison magnifique que j'ai. Alors maintenant, ça fait 15 ans que je gagne très bien ma vie, donc je me suis habitué évidemment à ce train de vie, mais après je suis pas dépensier. Je le dis aux cambrioleurs, j'ai rien de valeur chez moi, j'ai pas de tableau, j'ai pas de montre, je n'achète rien de valeur, ça m'intéresse pas en fait. J'ai pas envie d'acheter une montre à 50 000 euros, je trouve ça débile en fait.
Quand votre carrière décolle, du coup, vous en êtes où au niveau psychologique, au niveau de votre psychisme et au niveau de vos addictions? Est-ce que c'est là que vous commencez à boire plus et de façon problématique?
Non, c'est pas du tout là. C'est bien plus tard. Non, mais je bois toujours de manière problématique, mais sauf que je bois pas tous les jours. Tous mes proches pourraient vous dire, à l'époque, quand ils buvaient, c'était problématique, parce que je ne m'arrête pas de boire. C'est-à-dire que je commence à 18h ou je peux commencer à 10h s'il y a un truc qui fait qu'on commence à 10h. Je ne m'arrête pas. C'est-à-dire que s'il y a un repas de midi et que je commence à boire à 10h, je suis incapable de m'arrêter de boire. Donc là où les gens à 15h ils vont rentrer chez eux, moi c'est impossible. Je continue de boire jusqu'à ce que je tombe le soir à minuit ou 1h du matin. Donc je bois déjà de manière problématique, mais je bois pas tous les jours. Je maîtrise les jours de consommation. Donc ça va. On dit juste c'est un bon vivant. Les conneries qu'on dit quand il y a des gens qui boivent trop. il aime la vie, un épicurien. Bon, voilà. Donc à ce moment-là, j'ai toujours mes maladies invisibles, évidemment. Donc je vis avec toutes les phases émotionnelles qui me traversent dans la tête. Mais de toute façon, la vie, elle est tellement déjà dure. Si vous voulez, avant que ça commence à marcher, la vie est déjà tellement rude qu'en réalité, j'ai pas trop le temps de me plaindre. J'ai évidemment des crashs émotionnels, des crises d'angoisse, des crises de parano, des crises... Enfin, j'ai 1,5 milliard de trucs qui se passent dans ma tête, mais j'ai le quotidien à gérer, qui est dur, et voilà, et je suis plus jeune, donc j'essaie de voir des spécialistes qui me disent qu'il n'y a rien qui va. Évidemment, dès que je bois une goutte d'alcool, j'ai envie de pleurer, j'ai envie de mourir, parce que bon, il y a tout qui ressort. Bon, je vis toute cette période-là, mais je me dis, bon, ça va passer, c'est parce que la vie, elle n'est pas facile.
Le 16 janvier 2016, vous participez à l'émission de Laurent Ruquier « On n'est pas couché ». Le Premier ministre Manuel Valls est l'invité principal. Avant ce rendez-vous, Laurent Ruquier vous conseille de rester plutôt prudent, de ne pas trop bousculer le chef du gouvernement. Mais ça ne se passe pas comme ça. Vous l'interpellez notamment sur la présence de l'homme fort du Gabon, Ali Bongo, au défilé en hommage aux victimes de l'attentat de Charlie Hebdo un an plus tôt. Vous lui dites quoi en résumé ce soir-là?
Alors, je tiens quand même à revenir sur une chose, parce que c'est important. Quand Laurent Ruquier me dit « ne bouscule pas trop le Premier ministre », c'est pas pour protéger le Premier ministre, c'est pour me protéger moi. Parce qu'il faut bien remettre dans le contexte, quand on démarre la promo de « Vente de pièces à Beyrouth », qui est un spectacle donc, qui traite du terrorisme, il y a la tuerie du Bataclan. Tout le monde est sous le choc, tout le monde est... Voilà. Évidemment, les ventes de billets de spectacle s'arrêtent net. Et moi, on m'annule toutes mes promos. Parce qu'un spectacle d'humour sur le terrorisme, alors qu'on est encore en train d'enterrer les victimes, si vous voulez, évidemment, ça n'est pas possible. Donc voilà, et en fait, il m'appelle quelques jours avant pour me dire, écoute, ta tournée est en grande difficulté, puisque plus personne n'a envie d'aller au théâtre ni de te recevoir, et on va vraiment dire que le spectacle est génial, et on va te mettre une belle place dans l'émission. Donc, il y a Manuel Valls qui va venir, prends pas trop de risques, parce qu'en plus, il va aller sur ce sujet-là, du Bataclan et tout ça. Si tu fais un débat avec lui et que t'es pas à la hauteur du débat, tu vas te décrédibiliser parce qu'il va parler de ton sujet. Et ça serait dommage de gâcher ta promo. Et après, tu fais ce que tu veux.
Emmanuel Valls est Premier ministre.
Il est Premier ministre.
Et vous êtes face à lui.
Et je suis face à lui. Et puis, effectivement, il va déblatérer tout un tas d'absurdités. Tout est, à mon sens, à vomir. Et puis, à un moment donné, il y a une espèce de truc d'image, de photo, où on voit François Hollande au bras de Ali Bongo pour la marche pour la liberté d'expression. Et là, Laurent... se dit « Ah, peut-être je peux lui donner la parole là-dessus. » Et donc Laurent dit « Qu'est-ce que vous en pensez, Jérémy ?» Et donc on se met à parler d'Ali Bongo.
Répondez simplement à ça. Comment vous expliquez qu'Ali Bongo se retrouve en première tête d'une marche pour la liberté d'expression? Ce que je veux dire simplement, c'est qu'on peut après rentrer dans des détails, parce que c'est là où vous allez nous perdre, parce que c'est ce que vous faites,
non,
en fait.
Non.
Vous posez une question et vous nous perdez. Non, moi, je vous réponds simplement...
Je peux répondre à vos questions.
Alors, attendez, vous laissez répondre le Premier ministre.
Non, je vous assure, j'ai terminé dans deux phrases. Moi, ce que je vois simplement, c'est que là, vous êtes venu nous parler de deux choses ce soir, après les événements. Un livre sur vos plus beaux discours après les morts, c'est formidable, on trouve ça génial, ça va vachement nous aider. Et la deuxième chose, je suis désolé. Et la deuxième chose, c'est une loi qui ne concerne personne. Enfin, sur les quatre personnes qu'on connaît, les terroristes qu'on frappait, il y en a un qui est concerné par cette loi, vous le savez très bien.
Ça, vous l'aviez déjà dit, Jérémy Ferrari.
Je vais vous répondre. D'abord, laissons Ali Bongo, parce que dans cette manifestation...
Et moi, je détermine Ali Bongo tout de suite dans mes mots comme étant un dictateur. Donc je dis le dictateur Ali Bongo. Et je pense où Manuel Valls l'a fait l'erreur, c'est qu'il ne me reprend pas. Alors qu'en réalité, tout de suite, il aurait dû dire « Non, mais je ne peux pas vous laisser dire ça. Il a été élu démocratiquement, blablabla. » Il ne le fait pas. Ce qui fait qu'il me laisse parler avec lui en disant dictateur. Donc je pense que dans son cerveau, ça devient un peu banal, quoi. Et à un moment donné, dans le débat, il parle d'un autre mec en disant qui lui a été élu démocratiquement. Et donc, je rebondis en disant, donc on est bien d'accord que Ali Bongo n'a pas été élu. Et Manuel Valls a cette phrase incroyable où il dit, pas comme on l'entend. Ce qui lui vaudra un incident diplomatique.
Vous retenez Ali Bongo. Moi, je retiens et le président de l'autorité palestinienne et le premier ministre israélien et surtout un autre Africain élu, lui, Ibrahim Boubacar
Keïta. Ah, parce qu'il n'est pas élu Ali Bongo, finalement ?
Non, pas comme on l'entend.
Donc il y a ce clash, ensuite on va parler de ce qui s'est passé au Bataclan, et là je vais rentrer en attaque très frontale envers ce gouvernement, leurs décisions politiques, etc., etc. Et ce débat va tourner plutôt en ma faveur, même très en ma faveur, avec les maladresses que comprend ce débat. C'est-à-dire que quand je l'ai revu, moi récemment, il y a 2-3 mots qui sont un peu maladroits, mais tout le monde va tellement sentir que je suis sincère, tout le monde comprend ce que je veux dire, que ça va suffire. Et là-dessus, Manuel Valls part. Je m'assois et là, Yann Moix, Léa Salamé et Laurent Wauquiez disent « Tu es un génie ». Alors forcément, si vous voulez, je crois qu'on a vendu 55 000 places en 2 ou 3 jours. Enfin, ça a été c'est n'importe quoi et ça a sauvé ma tournée, ça a relancé Vent de pièces à Beyrouth.
C'est un tournant cette émission parce qu'elle marque pour le grand public le fait que vous êtes l'humoriste qui dénonce, l'humoriste qui tient la tête aux puissants. Et du coup, c'est une marque de fabrique qui est en train de s'installer en direct à la télévision ce soir-là.
Oui, c'est une marque de fabrique et elle est sincère. C'est-à-dire qu'en vrai, si on est totalement honnête, je risque gros en faisant ça. Parce que derrière, c'est toute ma tournée. Donc c'est ma carrière et c'est une jeune carrière. J'ai eu qu'un seul succès, c'est mon premier spectacle. Je ne suis pas encore installé. Et si j'avais mal géré mon débat, je pense que je passais pour un idiot. Quoi, et que j'aurais détruit ma promo et ma tournée. Mais je ne pouvais pas en fait le laisser parler en me disant si je le laisse parler, je ne vais pas arriver à me regarder dans un miroir demain matin.
L'autre marque de fabrique que vous montrez dans Vent de pièces, c'est une propension à se documenter qui est hallucinante, vu que vous laissez sur les planches du théâtre la somme de documents que vous avez amassés pour construire vos spectacles. Faire rire, c'est malgré tout une affaire très sérieuse pour vous et c'est obligatoire d'être dans la vérification en permanence avant de faire une blague.
Oui, c'est obligatoire parce que c'est ce que j'ai promis aux gens. Je promets aux gens, les gens sont... les gens ne croient plus dans les médias, malheureusement. Pour survivre, les journaux maintenant sont obligés d'être dans la surenchère, que ce soit les chaînes de télévision, les chaînes d'information, la presse, est obligé d'être dans la surenchère permanente. Et ça dilue l'information. Ça fait qu'il y a de la mésinformation, de la désinformation, de la surinformation, et les gens sont perdus. Donc, je fais des spectacles documentés de 3 heures ou 2 heures ou 2 heures et demie en promettant aux gens de l'information. Donc, si moi, je dis des bêtises, alors je perds toute crédibilité. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est que ça s'appelle juste du respect. C'est-à-dire que quand je promets aux gens quelque chose, et alors il faut tenir sa promesse. Donc, je travaille énormément mes sources. Ça ne veut pas dire que je dirai jamais de bêtises. Mais si je dis une bêtise, ça sera toujours avec un article ou 2 ou 3 à la clé, quoi.
Vent de pièces à Beyrouth est un succès populaire et malgré ce succès, vous vous sentez toujours très mal au fond. À quoi ressemble votre vie pendant ces années-là ?
Bon, je travaille tous les jours. Donc, les premiers temps, je ne bois que le soir, par exemple. Donc, en fait, la journée, je ne fais que travailler comme je fais maintenant. Je vais même faire du sport. Et sauf que quand je rentre du sport, là, je commence à boire des litres de rosé le soir, 2 bouteilles, 3 bouteilles, 4 bouteilles. Et je suis jeune et j'ai une bonne constitution, donc je tiens bien le choc de ça. Ce qui fait que le lendemain, j'arrive à dormir 4-5 heures, à être en forme et à recommencer. Donc, au début, c'est des journées assez normales. Après, je suis évidemment tiraillé par mes troubles, de mes maladies invisibles, parce que je suis obsessionnel compulsif, obsessionnel idéatif, troubles de l'attention et hyperactivité, donc je suis tiraillé. Mais bon, si je vous raconte à ce moment-là ce qui se passe dans ma tête, ça vient pour des heures. Mais dans les grandes lignes, c'est des crises, quoi. C'est-à-dire que vous êtes très de bonne humeur, plus du tout de bonne humeur. Les rapports avec les gens sont très compliqués. Vous avez des crises d'angoisse, des crises de parano, vous dormez plus. Vous avez des crises de larmes, vous avez envie de mourir, vous avez des idées noires en permanence. Et puis moi, j'ai des obsessions, donc je vois des flashs, des images horribles dans ma tête tout le temps. Donc j'ai des parasites internes dans mon cerveau qui pourrissent ma vie, mon quotidien, mes pensées, mes relations amoureuses, mes relations amicales. Voilà. Mais dès que je travaille, ça va. Donc je travaille tout le temps.
En 2016, en début d'année, pendant une période de plusieurs mois, vous sombrez complètement dans l'alcoolisme, vous ne dormez plus que quelques heures par nuit. Et un soir, le vendredi 27 mai 2016, vous êtes dans un hôtel d'Aix-en-Provence pendant votre tournée pour Vent de pièces à Beyrouth. Le lendemain, vous êtes attendu à Nice. Vous vous disputez avec votre compagne, vous en parlez sur scène, et vous racontez aussi que vous avez failli vous suicider, vous êtes monté sur le rebord de la fenêtre de cet hôtel et vous avez eu envie de sauter.
J'avais déjà eu des moments dans ma vie où je, en dépression, avec des cachets devant moi, où je me dis je vais prendre des cachets, je vais disparaître, blablabla, des trucs un peu comme ça. Mais l'envie n'était... Il y avait toujours une certaine lucidité, un certain truc qui fait que je passais pas à l'acte, vous voyez. Donc j'ai jamais considéré ça comme des tentatives de suicide. Mais ce jour-là, il y a vraiment eu un décrochage de mon cerveau. Et j'ai regardé le vide en éprouvant énormément de joie, voire d'euphorie à l'idée de sauter. Parce que tout d'un coup, ça m'a semblé une porte de sortie merveilleuse et accessible immédiatement. Et j'ai vraiment poussé sur mes bras pour partir. Et c'est au moment où j'ai senti que je glissais que mon instinct de survie certainement s'est réveillé et m'a rattrapé. Ce qui fait que j'ai compris comment les gens et pourquoi les gens qui se suicident, comment ils trouvent la force. Vous savez, parfois, j'ai eu dans mon entourage, malheureusement, j'ai eu des suicides. Et on se demande toujours, mais comment tu trouves la force sur ce dernier instant de la décision. Et en fait, je crois que c'est ça.
Quand vous évoquez sur scène cette tentative de suicide, le public en salle est sidéré, sous le choc. Est-ce que vous avez hésité à retirer ce passage du spectacle ?
Non, j'ai pas eu envie de retirer, jamais. Je me suis beaucoup posé la question de savoir si j'allais le raconter. Mais une fois que je l'ai raconté, je me suis pas posé la question. Mais oui, avant, évidemment. C'est la question de base. Comment ça va être pris? Est-ce que ça va aider les gens? Est-ce que les gens vont me juger? Est-ce qu'ils vont me croire? Est-ce qu'ils vont pas? Est-ce qu'on va m'accuser de raconter ça pour faire des entrées? Enfin voilà, toutes les questions qu'on peut se poser. Et puis la famille aussi, comment elle va le percevoir? Moi j'en ai parlé à ma mère quand même, parce que je raconte des trucs un peu de famille dans le truc. Il y a pas mal de choses que je raconte de ma famille qui sont vraies. Alors ce que j'ai fait, c'est que j'ai mélangé les histoires, j'ai changé les prénoms pour pas que les gens se sentent, parce que je veux pas blesser ma famille. Mais oui, on se pose 1,5 milliard de questions quand on arrive à ça.
Quelques semaines après cette nuit, vous commencez une cure de désintoxication dans un centre en Suisse et vous êtes pris en charge par des spécialistes qui vous comprennent, qui comprennent ce que vous avez.
Oui, alors j'avais rencontré un psychiatre déjà à Paris qui, lui, avait démarré déjà un diagnostic et qui avait commencé à m'aider. Après, je pars en cure. Et en cure, là, je vais rencontrer, on va finir le travail, quoi. Mais après, j'ai creusé sur scène, je fais un résumé parce que j'ai pas le temps d'aller trop dans les détails. Mais par exemple, sur les obsessions, je suis allé voir des experts à Lille pour mettre un mot, sur un nom sur mes obsessions. Donc, je n'ai pas eu les réponses tout de suite. J'ai eu 80% des réponses en cure. Et le reste, je l'ai trouvé au fur et à mesure aussi en cherchant. Hein. Parce que l'addiction, par exemple, en France, on est vraiment à la ramasse. Quoi. C'est vraiment une catastrophe. Donc, il ne faut pas hésiter à aller voir un peu aussi parfois du côté de la Suisse, de l'Allemagne, des Anglo-Saxons, des Américains. Voilà.
Poser ce diagnostic donc au potentiel intellectuel, trouble de l'attention avec hyperactivité. Donc justement, le fait de mieux vous comprendre, de mieux savoir ce qui se passait en fait dans votre cerveau, ça vous a permis quoi ensuite ?
Bah ça m'a permis d'aller mieux, parce qu'en fait déjà vous ne vous sentez plus fou. Tout ce que vous ne comprenez pas dans vos réactions, dans votre ressenti, dans vos mots, dans votre cerveau, dans vos nuits, dans vos cauchemars, dans vos rêves, dans votre relation aux autres, dans votre quotidien, dans vos angoisses, dans vos mal-êtres, dans vos malaises, tout ce qui fait que le quotidien est si dur quoi à vivre, tout à coup, tout est expliqué. Parce que vous avez est-ce que vous avez ça dans votre vie ? Bah oui, alors ça c'est à cause de ça, ça c'est à cause de ça, ça ça rentre en conflit avec ça, donc c'est ça. Donc du coup, non seulement ça vous permet de mieux vivre le truc, et puis ça vous permet de vous comprendre, et donc de commencer à apprendre à vivre différemment. Déjà, ça vous permet de vous pardonner aussi, de vous dire, ben voilà, je suis pas un salopard, j'étais pas bien. Et donc il faut que je travaille du coup là-dessus, pour devenir ce que je suis moi vraiment. En fait, j'ai tendance à penser de manière un peu cliché, mais de me dire que ça m'apporte aussi tellement de choses que j'ai pas été en rejet de ça, en fait. Ce que je me dis, c'est ce qui me permet aussi de faire tout ce que je fais. Je n'échangerai pas ce cerveau et ce mal-être contre une vie plus apaisée.
Et le fait d'avoir coupé l'alcool, ça a changé quoi dans votre vie au quotidien ?
Ça a surtout considérablement fait chuter le chiffre d'affaires du bar en bas de chez moi. C'est surtout lui qui a eu un changement de vie. ça m'a juste forcé à me discipliner. Bon, après, moi, je faisais pas la fête. Hein. J'allais boire tout seul. Hein. Donc, j'étais pas un mec... je sortais pas vraiment en boîte, en soirée, tout ça m'intéressait déjà pas, donc je buvais tout seul chez moi, en travaillant généralement. Donc ça a juste changé mon humeur, ma forme, mon sommeil, ça a juste amélioré ma vie, mon rapport aux autres, ça a tout stabilisé d'arrêter de boire. C'est-à-dire que tout à coup, j'ai pu voir l'état des lieux. C'est-à-dire que tant que vous êtes sous alcool, sous drogue, comment vous voulez savoir ce qui est dû à quoi ? Cette dépression, elle est due au trop d'alcool, au trop de drogue ou pas, et le manque de sommeil qui va avec, pas de sport et l'alimentation pourrie qui va avec, souvent les gens qui boivent trop. Enfin bon, il y a rien qui va. Donc d'abord, on s'occupe de ça et après, on voit ce qui reste.
À partir de 2018-2019, vous préparez un spectacle sur la santé qu'on a déjà évoqué. Et avec votre équipe, vous faites un gros travail de documentation, comme pour Vent de pièces à Beyrouth. Vous commencez à jouer ce spectacle en janvier 2020. Mais quelques semaines après, tout s'arrête avec l'épidémie de Covid et le confinement.
Bah ouais, donc encore une fois, rebelote, un événement terrible va mettre en péril ma tournée, mon spectacle, sur le thème de mon spectacle, donc comme pour Vent de pièces à Beyrouth.
C'est un spectacle qui aurait pu finir à la poubelle le mot est fort, mais c'est un spectacle qui aurait pu connaître une vie très courte.
Évidemment, puisque j'avais vendu tous les billets de ma première année de tournée avant de démarrer. Donc je ne sais plus combien on avait de billets à vendre, 100 000 je crois, 120 000, on avait tout vendu avant de démarrer. De là, on joue 30 dates, on arrête, et là on commence à décaler les dates. La majorité des artistes ont vu les gens demander des remboursements évidemment. Et donc les tournées se sont vidées. Donc il y a plein d'artistes, même quand on leur a dit c'est bon, vous pouvez retourner jouer, ils ne pouvaient plus, parce que les salles étaient vides. Donc si vous en êtes là, vous n'avez plus qu'à annuler le spectacle. Il y a plein de gens qui ont fait ça. Plein de gens qui ont dû mettre le spectacle à la poubelle. C'est-à-dire que j'aurais dû mettre le spectacle, un des plus importants de ma vie, à la poubelle. Mais ce n'est pas ce qui va se passer. Les gens vont conserver leurs billets et même continuer d'acheter des billets. Alors c'était complètement hallucinant. Mais tous les promoteurs locaux de région m'appelaient en me disant « on ne comprend pas ». Les gens restent, il n'y a pas de remboursement. Et quand il y a du remboursement, il y a d'autres qui rachètent dans la foulée. Ce qui fait qu'on a pu prendre ma tournée avec tous les gens dedans, décaler de 2 ans et recommencer, reprendre.
Et c'est comme ça qu'on va arriver à ces 2 dernières dates d'Anesthésie Générale, les 9 et 10 mars, à l'Accor Arena. L'année dernière, vous avez tourné un film dont vous êtes l'un des personnages principaux, aux côtés de l'actrice franco-iranienne Golshifteh Farahani. Ça s'appelle Rokia, film réalisé par Saïd Beltibia, membre du collectif Courtrajmé. Ce film a été produit par Lajli, un film sombre. Ça vous fait quoi d'avoir un premier rôle au cinéma ? C'est un accomplissement ?
Ah bah c'est ce que j'ai attendu. Vous m'avez pas vu au cinéma exactement pour cette raison. C'est-à-dire que non mais parce que j'ai pas été boudé du cinéma. Le cinéma il est venu me proposer plein de trucs, mais c'était des trucs que je trouvais pas assez originaux ou un peu trop convenus. Et je savais qu'un jour on allait me proposer un truc un peu différent et que c'est comme ça que je voudrais démarrer dans le cinéma. Et c'est arrivé. Alors là je voulais un truc différent. Je l'ai eu. Et je suis assez fier du résultat. Je pensais être très mal à l'aise en me voyant. Et puis finalement, mais j'ai adoré. C'est-à-dire que je savais que j'allais aimer, mais je savais pas à quel point. Vous savez, j'entendais tellement de gens dire oui, mais les tournages, c'est chiant, c'est long, on attend beaucoup pour tourner. Je comprends pas. Moi, j'étais un enfant à Disneyland. Je voyais même le mec qui juste passait 45 minutes à régler un son dans un couloir pour trouver un écho. Ça m'a passionné. J'ai aimé attendre, j'ai aimé regarder, j'ai aimé écouter. C'est un nouveau terrain de jeu absolument incroyable.
Le 1er juin 2023, vous avez perdu un proche, votre ami humoriste Guillaume Batz. Il avait 36 ans, Guillaume Batz qui souffrait de la maladie des os de verre. C'est vous qui avez découvert son corps après avoir enfoncé sa porte. Tout le monde était inquiet de ne pas avoir de ses nouvelles. Guillaume Batz, vous étiez vraiment proche de lui. C'était quel genre d'homme ?
Moi, c'était comme un petit frère. Je l'ai toujours vu comme ça. J'ai démarré ma carrière en même temps que lui. On a toujours été proches. J'ai d'abord été son auteur et son metteur en scène, ensuite son producteur et avant tout son ami. Le dernier nouvel an qu'il a passé, c'était avec moi, c'était chez moi, il faisait en vacances chez moi. Enfin bon, c'était vraiment, vraiment...
Vous avez coécrit son dernier spectacle avec lui.
Ouais, on produisait et j'ai coécrit effectivement son dernier spectacle qui venait de démarrer. Guillaume Batz, c'était un mec incroyable, en fait. De joie et d'agacement en même temps. C'est-à-dire que moi, nous, on avait un rapport très fort parce que on se disputait beaucoup, parce que moi, je voulais tout le temps le pousser plus pour qu'il soit meilleur sur scène. Lui, il aimait profiter de la vie, il aimait pas se prendre la tête, comme il m'a dit pas très longtemps avant de mourir. Mais moi, je t'envie pas. Hein, moi, j'ai pas envie d'avoir ta vie. Hein. J'ai dit, en même temps, si j'ai pas ma vie, je peux pas te payer. C'est parce que j'ai cette vie que toi, t'as la tienne. Donc, c'était toujours des trucs entre nous. Je l'ai engueulé 1500 fois parce que on devait faire des répétitions avant les fêtes de Noël. Lui voulait partir en vacances de Noël. J'ai dit, c'est hors de question. question. Moi, je pars pas en vacances pour te mettre en scène, donc je vais pas t'attendre. Il arrivait, il connaissait pas son texte, ça me rendait dingue. Je le renvoyais chez lui en gueulant. Je disais, retourne chez toi, tu reviendras quand tu sauras ton texte. Et donc, il avait cette personnalité qui disait qu'il était toujours de bonne humeur, toujours souriant, toujours en train de faire le con. Il était très en demande tout le temps d'affection, de câlins, de trucs que je ne lui donnais moi pas. Donc c'était la grande vanne avec moi. Il me dit « Allez, viens me faire un câlin !» J'ai dit « Non, c'est hors de question. » Donc c'était toujours une vanne comme ça entre nous. Et puis c'était quelqu'un d'extrêmement talentueux.
J'en ai marre, Jérémy. J'en ai marre. Tous les gens, tu me donnes des rôles dégradants et humiliants. Un nain de Blanche-Neige, Quasimodo. Maintenant ça, j'en ai plein de queues, Jérémy. J'en ai plein de queues, ok. Tu sais quoi? Va te faire reculer, espèce de merde.
J'ai l'impression que le rôle te plaît pas.
Non, il me plaît pas, j'ai aimé le rôle. Non, alors maintenant, oublie-moi une bonne fois pour toutes. C'est clair? Je me casse.
Eh ben, c'est ça, ben, casse-toi. T'es vraiment un sale
petit
ingrat.
Remontez-moi.
Oui, allez, ben, c'est ça, allez, remonte, dégage. On continue cette soirée sans lui, on n'a pas besoin de lui. On continue cette soirée dédiée aux femmes ce soir.
Attends. C'est un gala féminin?
Oui, c'est un gala féminin.
Descendez-moi. Je suis Cupido.
Et donc, c'est une perte immense, d'autant que les gens se disent, bah oui, mais avec, vu son état de santé, c'était évident qu'il allait partir vite, mais pas du tout, parce qu'en fait, il avait une maladie récessive, hein, la forme de sa maladie était récessive. Donc, on avait plutôt espoir que ça ne bouge plus, et on avait même reçu un mail un mois ou deux avant, il était content, il me l'avait envoyé d'un mec qui avait la même maladie que lui, qui avait 70 ans, et qui lui avait écrit pour lui dire, tu vois, on peut vivre vieux. Et bon, on n'imaginait pas une seule seconde qu'il allait partir là. On avait un film de prévu ensemble, il devait partir avec nous à la tournée du trio.
La tournée du trio, donc c'est le prochain spectacle que vous allez lancer avec Arnaud Samer et Baptiste Le Caplain.
Ouais, on venait de lui annoncer qu'il allait venir avec nous.
Il y aura un hommage, forcément.
Oh, il y aura forcément des hommages, même là dans les duos 10. Hein. Après, c'est des hommages à notre manière, hein, je vous préviens d'avance. Hein. On va pas regarder une photo en pleurant. Hein. On va lui faire des vannes, on va se moquer de lui, comme on a toujours fait. On va se moquer de sa mort. On va faire ce qu'on faisait déjà quand il était vivant.
Vos parents, dont on a parlé au début du podcast, à votre avis, de quoi ils sont le plus fiers aujourd'hui, vous concernant?
Je pense que c'est d'être resté moi-même. Parce que ma mère n'a jamais vraiment eu de doute sur le fait que ça allait marcher. Mon père non plus. Je leur dis, maman, je fais des livres, je fais des DVD, j'ai monté 8 sociétés, je fais des tournées, je remplis des zéniths, j'ai mon émission à moi, je fais des films. Je sais pas. Je dis, oui, mais est-ce que tu veux manger du poulet ou de la blanquette? Il y a un truc, en fait, des fois j'ai l'impression qu'ils se rendent pas compte. Mais ils se rendent compte. C'est juste qu'en fait, pour eux, je suis juste leur fils. Et je crois que ce dont ils sont vraiment le plus fiers, c'est ça. C'est de m'être sorti aussi de mes problèmes d'alcool. Ce qui me rend pas toujours facile au quotidien, ce qui me rend moins festif à Noël et à Nouvel An, ce qui me rend moins... Mais ils savent que c'est comme ça que j'ai besoin d'être aussi pour tenir. Ils me voient pas beaucoup, c'est dur, des fois le téléphone, je loupe les appels, machin. Mais ils savent que je suis le même, quoi. Ils se disent, en fait, on l'a bien élevé. Il est resté comme on voulait qu'il soit.
Merci beaucoup Jérémy Ferrari. Les dernières d'Anesthésie Générale, c'est les samedis 9 et dimanche 10 mars à l'Accor Arena. Le dimanche, ce sera à voir en direct dans 300 salles de cinéma en France. Un grand merci à vous, Grégory Plouvier. Cet épisode de Code Source a été produit par Thibault Lambert et Barbara Gouy, réalisé par Julien Moncouquiole. N'oubliez pas Crime Story, chaque samedi, et Le Sacre, nouveau podcast jusqu'à Paris 2024. Entre le 14 février et le 24 juillet, chaque mercredi, un ou une médaillée d'or olympique raconte à Anne-Laure Bonnet son chemin vers le sacre.
When it comes to your finances, you think you've done it all. You've saved, you've researched, and you've invested all that you can. Now it's time to take those investments to the next level by using the brand behind every great investor, Yahoo Finance. As America's number one finance destination, Yahoo Finance has everything you need, whether you're a seasoned trader or just dipping your toes into the market. Join the millions of investors who trust Yahoo Finance to guide them on their financial journey. For comprehensive financial news and analysis, visit yahoofinance.com, the number one financial destination, yahoofinance.com.
Here's a question for the marketers listening. Want to find that perfect customer beyond the world of scrolling, swiping, and searching? Here's a secret to make sparks fly. Smooth talking with podcast ads. With Acast, you can reach millions of listeners who'll be hanging on your every word. On the train to work, in the gym, or waiting in line for coffee. Start up the conversation with podcast listeners anywhere and everywhere. And they're looking for love. 60% of listeners have a higher trust in brands they've met on podcasts compared to social. Get closer to your audience. Make podcast ads with Acast. Head to go.acast.com/closer to get started.